peut mettre le verset Colossiens 3:13 qui nous dit « Supportez-vous les uns les autres, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, il dit « Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Donc, je veux juste faire un petit rappel. La semaine passée, il y a eu quelques personnes qui n'ont pas apprécié la déclaration du message. Ça me semble que ça en a dérangé quelques-uns. Sachez que c'est pas voulu dans le faire dans le sens de blesser. Je porte dans mon cœur l'onction prophétique. J'ai déclaré ce que le Seigneur me demandait de déclarer. Donc, est-ce que j'aurais pu le déclarer avec plus de douceur? Sûrement. Est-ce que j'aurais pu le faire différent? Sûrement. Je suis qui je suis Serge, j'ai ma personnalité d'en faire les choses, mais si je vous ai blessé, si je vous ai déplu, si ça vous a cassé, je vous en demande sincèrement pardon, mon but n'est pas là. Mon but, c'est d'avoir l'œuvre avancée. On a vu les fruits cette semaine. Vendredi, on est à 22 à la prière, on est à 11 hommes. Samedi matin, on est à 14 à la prière. Et on avait toujours des réunions, plus de femmes, jamais d'hommes. Donc, pour moi, j'ai fait ce que je devais être fait. Donc, ne jugez pas trop vite avant d'aller plus loin. Laissez tomber les fruits. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et maintenant, pour moi, je vous demande pardon, je le redis, c'est entre vos mains. Donc, si vous voulez continuer à faire des choses, bien, si vous avez des choses à dire, venez me voir, je ne suis pas fermé, loin de là. Je pense que ceux qui me connaissent, je suis un gars assez ouvert. J'ai toujours dit, la vraie maturité, c'est capable de se parler, de dire les choses en face. Donc, si vous avez des choses à me dire, venez me voir, je vais être prêt à vous écouter. Mais on n'est pas là pour se briser, on est là pour avancer. Et l'onction de Dieu, elle dérange. Vous savez, les gens disent souvent, « Ouais, mais quand Jésus a replacé ses disciples, qui a parlé aux pharisiens, il n'a pas toujours été de main morte non plus. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse. » Je viens d'écouter un message d'une église très forte à Montréal. Et laissez-moi vous dire que je me suis trouvé très doux comparativement aux frères qui ont parlé. C'est une église de 2000 personnes et plus. Donc, si l'église va avancer, ça nous prend des gens de prière, ça nous prend des gens engagés. Et c'était ça le but du message. Je ne voulais pas viser ceux qui n'étaient pas là, qui étaient là, mais je voulais encourager de venir aux réunions de prière. Et c'était le bon, c'était le but, et c'est ça, j'ai fixé ce côté-là. Donc maintenant, moi c'est dit, je me dégage, on a sondé le cœur de Dieu cette semaine, moi et Manon. On s'est mis à nu, je vais parler au comité vendredi, je les ai dit « qu'est-ce que j'étais pour faire? » Je n'ai rien caché. Donc, je n'ai rien à cacher dans ma vie spirituelle face à cela. Je me tiens droit devant vous, je suis prêt à prendre mes responsabilités et ça s'arrête là. Je vous aime, je vous apprécie et le meilleur que je veux pour vous, c'est votre avancement. Donc, si vous voulez sonder vos cœurs, faites-le devant Dieu. Moi, là, j'aurai à rendre compte un jour de ma propre vie. Et vous aurez à rendre compte également de votre propre vie. Moi, en tant que ministre de culte, ma responsabilité, c'est diriger. Donc, je vais le faire de tout cœur, de toutes mes forces, de toutes mes tripes. J'ai toujours été dans cette direction-là. Je ne changerai pas mes directions face au cœur de Dieu, face à cela. Amen. Donc, une dernière fois, pardon. Amen. Deuxièmement, donc, il y a quelqu'un qui... notre chère amie noire, tantôt, la famille, excusez-moi, j'étais un peu fébrile le matin, là, on m'a dit, c'est Marco, sa famille, elle est malade, les enfants sont malades, si vous voulez, on va se lever ensemble, je vais demander à deux personnes, d'élever la famille pour que... Le Seigneur puisse les toucher. Donc, si vous avez à cœur, levons-nous et prions pour cette famille ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire et gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jesus. Personne ou deux qui peut élever la voix, allez-y. Alléluia. Yes, Lord. Amen. Amen. Une autre personne, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Alléluia. Ce soir, un beau programme. Je vais donner mon témoignage, comment le Seigneur est venu me sauver il y a quelques 40 ans. Ça rajeunit un homme. Hein? Donc, comment le Seigneur a rencontré un jeune rebelle et Dieu est bon. Alléluia. Donc, Robert, tu peux-tu juste me baisser un peu? Gloire à Dieu. Donc, ce matin, on va changer un peu d'atmosphère. On était dans un mois de jeûne et de prière. Et honnêtement, vendredi soir, c'était une soirée que j'ai sortie d'ici. Je me suis régalé. C'était bon. Combien sont d'accord qui étaient ici, qui ont trouvé la réunion de prière bonne, agréable? Comment qu'on était bénis vendredi soir de voir les gens prier, s'élever? Moi, je dis toujours, ça aura plus de monde à la prière qu'au culte. On sera en santé spirituelle. Alléluia! L'Église qui prie, c'est l'Église qui avance. Donc, on a besoin de... Les frères africains ou les frères congolais, ils font des nuits de prière au complet. Les Églises prospèrent, grandissent, sont dedans. C'est bon. Fait que, non, matin, je vais faire du calme. Mais quand on aime le Seigneur, on a le désir de prier. Fait que, gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais... parler sur les bontés de Dieu. Alléluia. Donc, dis à ton frère et à ta sœur, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Donc, on va regarder ça matin sur la bonté de Dieu. Exode 33, verset 19. Exode 33, verset 19, qui nous dit, « L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Seigneur, on veut te rendre grâce ce matin. Seigneur, pour les louanges, Seigneur, pour les chants, Seigneur, pour l'équipe, Seigneur, qui nous a amenés, Seigneur, dans cette louange, Seigneur, dans ces temps d'adoration. Merci, Seigneur, de dégager nos cœurs pour le message ce matin, de réaliser, Seigneur, que tu es un Dieu qui nous fait du bien, qui veut nous faire du bien. Et Seigneur, je te prie de nous encourager, de nous fortifier. Et Seigneur, qu'on puisse sortir de ce lieu, Père, encouragé par toi. Dans le beau nom de Jésus. Amen et Amen. Donc, dans notre texte, nous savons que Dieu est bon, que Dieu est rempli également de compassion envers son peuple. Ça fait partie de sa nature, ça fait partie de son essence. Dieu est Dieu. Et dans notre texte, Moïse, quelque chose de bon, demande à Dieu de lui montrer sa gloire. J'espère que c'est un désir de votre cœur, honnêtement, de dire avec moi, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » J'espère de tout cœur que c'est votre désir. Il n'y a pas de plus grand désir que aimer Dieu et de se faire parler par le Seigneur. Et il est dans notre texte, dans notre contexte. Ce texte a été écrit après la grande délivrance du peuple d'Israël, de la mer Rouge s'est ouverte. Donc, la demande est faite après également que quand la colonne de nuit était de jour et la colonne de feu de soir. Et aussi au mont Sinaï, quand la loi est venue, comment que la montagne elle a tremblé. C'était quelque chose, un spectacle assez effrayant pour ceux qui ont vécu ça. Donc, tout ça est arrivé après que Moïse demande ces choses. peuple-là. Moïse ne demande pas une autre démonstration de la gloire de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Il a été témoin du miracle de Dieu. Mais ici, dans le texte, Moïse veut connaître qui est réellement Dieu. Nous voyons la première chose, la première demande que Moïse dit, Exode 33:13, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il dit, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux, considère que cette nation est ton peuple. » Donc, Moïse, il dit, « Si j'ai trouvé grâce, si j'ai trouvé ta faveur, fais-moi connaître tes voies. » Moïse voulait connaître le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu aime ses enfants, mais Dieu désire qu'on s'approche également de lui. Et donc, Moïse, dans le fond de son cœur, dit « Comment que je peux plaire à Dieu? » Moïse a vu ses œuvres, mais ici, il veut connaître les voies de l'Éternel. Et le mot « voie » en hébreu, ça veut dire « ça rapporte au mobile qui motive la manière de Dieu d'agir. » Ça inclut sa source, ses actions, aussi bien ses compréhensions de la façon dont il exerce sa puissance et son autorité. Écoutez bien, je dirais que Moïse voulait entrer dans l'esprit même de Dieu, afin de pouvoir répondre comment que Dieu lui répond. Vous savez, et la seconde interaction qui est apparue également dans le début de chapitre 13, quand on parle de la bonté de Dieu, Exode 13, versets 1, 3 et 15, « L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je te donnerai la postérité. » J'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Hétiens, les Phérisiens, les Héviens et les Jébusiens. Verset 3, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je te consume en chemin, car tu es un peuple aux coups raides. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous fais pas point partir d'ici. Écoutez bien, lorsque Dieu a dit qu'il voulait que son peuple entre dans le pays de Canaan, mais Dieu ne veut pas accompagner son peuple. Dieu dit, je vais envoyer un ange qui va vous accompagner. Vous allez rentrer dans votre terre promise. Il dit, mon peuple ne m'oublie pas. Et je ne veux pas aller là. Moïse, ça ne passe pas. Le cœur de Moïse, il dit, Seigneur, si tu n'es pas là, on n'y va pas. Le cœur de Moïse qui veut avoir la présence de Dieu. Et donc, si nous voulons avancer, il faut dire « Dieu avance avec nous ». Alléluia! Pas avec moi, mais toi, qu'est-ce que tu veux me diriger? Moïse, sa vie, sa fondation, c'est une relation solide avec Dieu. L'homme spirituel veut la présence de Dieu. Il veut que Dieu dicte sa vie. Il chérit la vie de Dieu. Nous devons chérir la vie du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons saisir la grâce et l'amour que Dieu nous fait en chacun de nous. Il n'accepte pas que Dieu se retire pour aller de l'avant. Moïse va s'opposer à ces choses-là. Moïse ne veut pas partir. Si Dieu, tu ne m'accompagnes pas, on n'y va pas. Pourquoi? Parce que c'est voué à l'échec. Allô? C'est voué à l'échec. Si Dieu n'est pas avec nous, nous sommes voués à l'échec. On a besoin de cette communion avec Dieu. On a besoin d'entendre la voix de Dieu de nous parler. On a besoin d'entendre les directions de Dieu. Sans Dieu, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça, dans le mois, qu'on a fait un jeûne et prière, parce qu'on veut avancer. On veut voir Dieu nous parler. On veut voir Dieu nous donner des directions. Ça, c'est la vie spirituelle. Ça, c'est le vrai sens d'un chrétien né de nouveau. Exode 33, 16. « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marches avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la terre, sur la face de la terre, pourquoi Moïse parle à Dieu de cette façon? » Écoutez bien, Moïse déclare à Dieu ceci, et puis c'est une grande leçon pour ma vie que j'apprends également. Moïse dit à Dieu en réalité, pour être distingué de tous autres peuples, ta présence est nécessaire. C'est ta présence divine qui va servir de marque face aux autres peuples. Nous sommes différents des autres peuples. Nous sommes le peuple de Dieu, la nation de Dieu, qui doit vivre différemment des autres. On a besoin de Dieu dans notre vie. On a besoin de dire, Seigneur, parle, change, transforme nos vies. On a besoin de direction. C'est la manifestation de sa présence que le monde pourra nous connaître. Dieu ne recherche pas la religion. Dieu recherche des cœurs qui sont prêts à se laisser former. C'est mon cœur encore un matin qui vous partage. Je sais que ça va vous déranger une fois de plus, mais c'est comme ça ma vie chrétienne. T'es un bouillant pour le Seigneur. Je veux voir avant. J'aime l'œuvre de Dieu. Manon a laissé. Manon m'a dit tout le temps, « Serge, tu n'es jamais content. Je ne serai jamais content. Je ne serai jamais content. » Elle dit, « T'en veux toujours plus. J'en veux toujours plus. » J'ai été malade, j'ai eu le cancer. 3 mois après, j'étais à sa route, je leur prêchais, mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester assis, moi. Ma vie, c'est la prédication. Ma vie, c'est d'avoir des gens transformés. Ma vie, c'est d'avoir des gens venus à Jésus. C'est ma vie que je vous dis un matin. Saviez-vous qu'est-ce qui me tue dans ma vie? L'indifférence. Je ne suis pas capable de vivre avec ça. Soit gauche, soit droite. Mais branche-toi. Ça, c'est ma vie. C'est comme ça que j'ai fait ma vie. Manon le sait. On a fait des pas de foi énormes dans le ministère. J'ai voyagé par la foi tout le long de ma vie, mais j'ai eu des choix à faire. Où vas-tu, Serge? Tu prends la gauche, tu prends la droite, mais où vas-tu? Seigneur, c'est ma ligne droite. C'est toujours été comme ça que j'ai fonctionné. Vous savez, lorsque nous étudions la bonté de Dieu, il y a 2 éléments majeurs pour cultiver un renouveau spirituel dans notre vie. D'abord, il faut savoir qui est Dieu. Étudier la parole de Dieu. Découvrir le cœur de Dieu. Découvrir les conseils du cœur de Dieu. Si nous voulons avoir accès à la bonté de Dieu pour nous-mêmes et pour, nous, et pour les autres, il faut apprendre à accueillir la grande clé, sa présence. Aussi longtemps, puis je le dis à cœur ouvert encore, aussi longtemps que tu ne découvres pas la réelle présence de Dieu, tu peux connaître le Seigneur, tu peux venir à l'Église régulièrement, mais si le cœur ne change pas, ce n'est pas bon. Le vrai homme de Dieu ou les vraies femmes de Dieu, quand on expérimente la vraie présence de Dieu, nos cœurs changent. C'est plus pareil, les choses vont évoluer. Souvenez-vous de Paul. Il a fallu qu'il tombe en bas de son cheval pour comprendre qui était Dieu. Mais une fois qu'il a été touché par Dieu, qu'est-ce qu'elle a été sa vie? Il était changé, transformé. Les apôtres disaient, nous, qu'est-ce qu'on parle? C'est, on a touché la vie. On a touché la vie. On est touché par la vie. Les choses changent. Les cœurs changent. Vous savez, il faut apprendre à accueillir sa présence de sorte qu'elle s'imprime en nous comme son source, son identité à répondre à nos besoins. La réponse à la requête de Moïse, c'est de voir la gloire de Dieu. Exode 33, 19. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Il n'a pas dit une partielle de sa bonté. Toute sa bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je referai grâce à qui je ferai grâce et miséricorde à qui je ferai miséricorde. Moïse veut la gloire de Dieu. Dieu va lui révéler maintenant la facette de son amour et de sa grâce. Dieu lui répondit en lui proposant qu'il va lui montrer maintenant sa bonté. Écoutez bien, je vais vous donner une révélation maintenant que j'ai. Ça fait pas des années que je comprends tout ça, là, mais la manifestation de la bonté de Dieu, c'est une révélation de sa gloire. Je la répète, la manifestation de la bonté de Dieu, c'est une révélation de gloire. Wow! Arrêtons-nous 2 instants. C'est encore plus étonnant dans notre texte ce matin, seul Moïse a revenu avec la gloire de Dieu. Il a fallu qu'il se mette un voile, vous connaissez le récit. Cette révélation de la bonté de Dieu répond à deux désirs de Moïse. Le, premièrement, Dieu lui montre qu'il n'est pas difficile à lui plaire. Les tables de la loi de l'Ancien Testament disaient comment que le peuple de Dieu devait suivre les conseils de Dieu, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire également, et que Dieu aussi va révéler qu'il était en réalité Jésus, un Dieu en réalité bon et rempli de bonté. C'est ça qu'il dit à Moïse. Donc, Dieu va répondre à la prière de Moïse, à sa requête, parce que le cœur de Moïse est près du cœur de Dieu. J'aime parler de ces sujets parce que je suis en pleine découverte pour ma propre vie à certains niveaux à autre chose. Nous avons des saisons dans nos vies. On a des saisons sèches, il y a des saisons qu'on pleure, il y a des saisons dures, mais il y a des saisons de joie, il y a aussi des saisons de révélation. Et nous avons besoin de vivre des nouvelles saisons dans nos vies. Mais si on veut vivre des nouvelles saisons dans nos vies, il faut que ton cœur s'approche du cœur du Père. Et Dieu le Père va dire à Moïse, qui fait partie de l'alliance de l'Ancien Testament, le Seigneur dit, « Je suis compassion et je suis grâce. » Les noms de Dieu définissent qu'il s'exprime dans son caractère. En révélant à Moïse son nouveau nom, Dieu déclare pour l'éternité compassion et grâce, participe à sa nature pour l'éternité. Allô? La bonté de Dieu se manifeste envers nous sur grâce, par compassion. La grâce, nous savons, ça enlève le péché dans nos vies et il continue à nous soutenir dans nos faiblesses dans notre vie. Et la compassion, c'est la manière qui vient vers nous pour répondre à nos besoins quand on grandit. Donc, vous savez, en révélant à Moïse la loi qui devait condamner, en réalité, Dieu donne un aperçu également de sa nature, une nature pleine de compassion et de grâce. Le prophète Isaïe présente également Dieu comme un berger tendre et doux avec ses agneaux. Lisons Isaïe 40, verset 11. « Comme un berger... il paîtra son troupeau, il rendra les agneaux dans ses bras, il prendra, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitèrent. » Donc, Isaïe ici nous donne l'image du berger. Donc, un berger en même temps puissant, un berger qui protège ses brebis, puis aussi un berger qui est tendre. Donc, Dieu vient de libérer son peuple de Babylone. Dieu démontre que malgré leur péché, malgré leur échec, malgré leur rébellion, qu'il est rempli de bonté et de compassion. Voyez-vous, nous, on est vite à juger. On est vite à se détruire. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il marche. Le cœur de Dieu ne marche pas de cette façon-là. Le cœur de Dieu, c'est changer nos vies. Je n'ai pas, moi, à vous dire... Je me dis, j'ai des choses, je n'aime pas comme tout le monde. Mais le vrai sens de matin de la compassion de Dieu, c'est de changer et de transformer. La bonté de Dieu, c'est de nous prendre dans ses bras d'amour. C'est de nous montrer sa grâce. Il veut nous emmener dans le vert pâturage pour nous nourrir, pour nous guérir, pour nous restaurer par sa parole, par sa présence. Les psaumes également se réfèrent à la bonté de Dieu. Le psaume 73, verset 11. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Tout au long des psaumes, on découvre la bonté de Dieu. Un Dieu intentionné qui veut entendre nos prières, qui veut exaucer nos prières. Je vais vous donner quelques témoignages. T'en souviens-tu, Manon, quand on est parti pour le collège biblique? Le Seigneur m'avait dit en prière, il dit « Vends tout ». Vends tout, tout. Ton auto dit vends tout, claire toutes tes dettes. Toutes tes dettes. On avait des dettes, hein, comme tout le monde. Vendu l'auto. On s'est trouvé à pied là, dans l'espace d'un mois avant de partir pour le collège biblique. On s'en allait à Montréal pour étudier. On n'avait pas un sou dans nos poches. On avait peut-être 15 piastres dans nos poches. Là. Et le collège biblique nous donnait 30 $ par semaine. Manon était. Libraire, moi j'étais dans la cuisine, et c'est ça qui payait nos études. Puis quand tu n'as pas d'argent, là, c'est dur. Tu vas magasiner, tu fais du lèche-vitre. Et que c'est beau, pas d'argent. Et j'aimerais envoyer ça, j'ai pas d'argent. Ça vous rappelle-tu peut-être des choses? Quand tu n'as pas une scène, quand tu dis que tu es cassé, là, ça s'arrête là, là. Et il y a des gens qui nous ont pris en main. On a reçu des dons, hein, des dons incroyables. À notre église, le pasteur avec l'église, ils ont fait des dons. Mon père nous a soutenus. Il y a eu des miracles financiers. On était au restaurant, on s'est fait payer la traite. On n'avait pas une scène, on n'avait rien. Dieu nous a payé 3 ans de collège biblique. Ça coûtait à l'époque 23 000 $ à étudier au collège biblique. On l'a fait par le travail dans le collège, en cuisinier, puis Manon qui était là. On n'avait pas une scène, mais Dieu était bon. C'était à son plan. Par deux fois, j'ai eu des paralysies faciales. La première fois, premier pastoral, j'étais allé à Jean Chrétien. On a tous connu Jean Chrétien à l'époque. Là, on parlait tout comme ça. Puis j'ai dit, mais je vais faire comment pour prêcher tout ça, tu sais. Que j'étais voir un médecin, il dit, t'as une bonne paralysie, je sais pas si tu vas t'en sortir ou pas. J'ai dit, écoutez, monsieur, j'ai dit, docteur, je sais que vous êtes un scientifique, mais moi, j'ai le grand scientifique. Il dit, je crois que mon Dieu est capable de me guérir. Il m'a regardé, il est parti à rire. Il dit, on verra dans un mois. Je vous le dis, dans un mois, je vais être guéri. Tu vois, le médecin, un mois après, ça a décollé. Bon, il dit, t'es chanceux. Il dit, OK. Il dit, monsieur, moi, c'est la grâce de Dieu, je vous partage. Deuxième paralysie, ça m'est arrivé quelques années plus tard, très sévère. Et en retournant, pas le choix, on va le voir un médecin. Et le médecin me dit la même chose. Il dit, là, tu as une paralysie très, très sévère. Il te touche. Je ne veux pas. Il dit, tu risques de rester paralysé dans la face. Il dit, monsieur, dis-moi, j'ai un Dieu capable de guérir. Il dit, bonne chance. Il dit, on va se revoir dans un mois. Je vous dis, dans un mois, là, ça va bien aller. Et quand je retournais voir le médecin, une semaine avant, il n'y avait pas grand-chose qui se manifestait. Je dis, Dieu, tu n'es pas un Dieu menteur, tu es un Dieu qui guérit. Et dans la semaine, quelques jours avant, hein, ça a commencé à se replacer. J'ai été voir le docteur m'examine, il dit, pense si tu vas t'en sortir. Je dis, monsieur, je vous l'ai dit, je suis un Dieu qui est grand, il est capable de me guérir. Et je veux te revoir dans un mois. Dans l'autre mois, j'ai été, je n'avais plus rien. J'ai complètement été guéri. Je vous ai témoigné dernièrement le cancer que j'ai eu. Personne ne m'a donné une chance. Encore, Dieu me fait compassion. Dieu m'a, dans sa bonté, il m'a relevé. Financièrement, on était meublés. On est sorti du collège public, on n'avait pas de sous, on s'est fait meubler un 5,5 au complet. Poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, micro-ondes, des litres. On en avait trop de notre donné. Est-ce que c'était à neuf? Non. Mais est-ce qu'on avait quoi pour manger? Oui. Dieu est bon. Jamais manqué un paiement d'auto. On a acheté le premier auto, une petite tercelle. Tu t'en souviens, Manon? C'était le char le plus cheap qu'il y avait dans le Toyota à l'époque. On ne pouvait pas aller plus loin. Et on avait reçu en cadeau de son père un héritage. Les premières, une petite poney, là, les Excel, aujourd'hui, je ne sais plus trop quoi. Là. T'sais, on tirait le choke à la main là, pour que le char part. Puis, tu sais, l'hiver, on renaît, puis les vitres étaient toujours frestées. Là, tu sais, là, on était obligé de mettre le grattoir dedans pour voir clair. Puis, je disais, mais non, on ira pas loin avec ça, tu sais. On a fait 3 ans. Et puis, on était faire un prêt pour avoir un auto. Je dis, jamais ça va passer. À l'époque, ça passait le compte. Sam, il dit, Serge, vas-y, l'emprunter ton auto. Tu as besoin d'un auto, on va être avec toi. J'étais là, j'ai eu rien d'autre à demander. Voici qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un ministre de culte, je suis un pasteur, Dieu m'a donné un auto. C'est comme ça que je parle au gars. Le gars, il a dit, t'as de la foi? Il dit, oui, j'ai de la foi pour avoir mon auto. On m'a appelé le lendemain, j'ai eu le crédit pour l'auto. On n'a jamais manqué un paiement d'auto. On n'a jamais manqué même de payer notre logement. On n'a jamais rien manqué. Dieu est bon. Toujours dans mes voyages missionnaires, dans les voyages... En cours de route, quand je voyageais vers l'Europe, il y avait des églises qui n'étaient pas généreuses. Puis je me disais, ça ne paiera jamais mon voyage, ça ne paiera jamais, mais qu'est-ce que je fais? J'ai eu des poignées de main américaines, qu'on pourrait dire. Puis je chantais que les gens mettaient de quoi dans ma main. J'arrivais à la maison, j'avais des 500 euros, j'ai eu des 1000 euros. Jamais rien demandé. Jamais rien demandé. J'étais en Europe, maintenant on recevait des chèques par la poste. Jamais rien demandé. La bonté de Dieu. Voyez-vous, Dieu ne fonctionne pas comme moi. Dieu voit les besoins que nous avons besoin. Le psaume 37, versets 25 et 26, « J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni mendier sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et prêt, et sa postérité est bénie. » Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes dans l'alliance de Dieu. Et Dieu pourvoit à nos besoins. Il l'a fait 40 ans dans le désert avec le peuple de Dieu. Nourriture, eau, vêtements. Et le peuple a toujours mangé. Alléluia! Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il l'a fait avec ses apôtres. Une nuit, quand on était pêché, il n'y a pas eu de poisson. Il jette ton filet à l'eau. Les poissons sont venus. Bartimée, qui est aveugle, qui crie, « Seigneur, je veux retrouver la vue. » Dieu a guéri. Malgré nos faiblesses, malgré que David nous cite, malgré mes faiblesses humaines, malgré mes péchés, la bonté de Dieu démontre toujours sa fidélité. J'ai appris avec les années en tant que ministre que l'Église ne m'appartient pas. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui envoie et c'est lui qui fait le travail. Est-ce que c'est vrai ça? Il est le Père qui nous montre sa bonté. Également, c'est un Père qui sait aussi nous corriger, qui nous remet sur le bon chemin. Le psaume 119, verset 39, il dit « Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. » Hey! Malgré ça ne va pas, et tes jugements sont pleins de bonté. David parle de ses hontes, de ses échecs, puis concluait que la loi de Dieu était bonne. On peut dire que le jugement de Dieu est bon. David fait allusion à l'attribut de la bonté de Dieu qui donne de l'espérance aux pécheurs. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 9. « C'est là qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui qui vous a aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans l'avoir encore vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » En étant une nouvelle créature, en étant enfant de Dieu, né de nouveau, donc Dieu le Père et veut faire de nous des vases d'honneur. Est-ce que c'est vrai? Et des fois, on a de misère à se laisser former et transformer. Mais le but de Dieu, c'est de nous mettre à son image. Mais pour cela, je dois accepter qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie. C'est lui qui doit façonner. L'argile, nous, on a besoin de la main du potier pour se faire travailler et nous mouler. C'est lui qui transforme. C'est un chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, si tu veux te rebeller, pas contre moi, mais va vers lui. C'est lui qui fait le travail. Tous sans exception. Et je lève mes deux mains, mes deux pieds, puis je serais capable de lever mes dents, je le ferais. On a tous besoin de changer. Pas personne de parfait ici ce matin. On est parfait en travers le sang. C'est le seul moyen d'amener un chrétien à la maturité, c'est le brisement. On n'aime pas ça parler de brisement. Mais le brisement, ça dégage la bonne odeur. Comme Marie qui a versé le bon parfum aux pieds de Jésus. Elle a parfumé Jésus dans sa douleur. Quand nous sommes, vous savez, frères et sœurs, au pied du Maître, au pied de la croix, quand nous sommes dans nos larmes, dans nos faiblesses, dans nos peurs, dans nos craintes, quand on est à ses pieds, la souffrance emporte le jugement, le brisement, mais ça apporte aussi un cœur changé, transformé. Allô? Je dis souvent, comment tant tu n'as pas eu un Kleenex dans ton bureau pour pleurer? On a besoin de réaliser que Dieu veut nous changer, nous transformer. Puis je vais être franc avec vous, c'est pas facile de changer. C'est pas facile l'épreuve. Tout le monde dit, dites-moi un gros mais non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile de changer. On a tous à quelque part nos papiers qui viennent nous chercher, mais le résultat est fantastique. Notre foi grandit, la confiance se manifeste quand on voit la main de Dieu sur notre vie. Et quand on voit des cas changés et transformés, on voit des gens qui donnent la gloire et la louange à Dieu. Alléluia! Si Dieu a agi, Dieu va encore agir. Si Dieu va agir aujourd'hui, Dieu va encore agir demain. Dieu est le Dieu du changement. Et ça emporte du résultat, la gloire, la louange. Alléluia! Le brisement nous apprend la bonté de Dieu. Car Dieu veut le meilleur pour nous et nous devons être reconnaissants pour le travail qu'il fait dans notre vie. Nous découvrons, oui, un Père qui corrige, un Père qui nous éduque, qui va nous éduquer, mais tout cela est bon pour moi. Réalisez ce que je suis en train de dire là. Dieu est bon. Peu importe l'épreuve que tu passes ou ton mécontentement, Dieu est bon. Il faut accepter que Dieu fasse le travail dans nos vies. Tout ce que Dieu fait est bon. 2 Samuel, juste avant d'aller un petit peu plus loin, 2 Samuel 24, 14, David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. » Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Fort, là. Fort comme message. David parle de cette façon parce que David a expérimenté la grâce, a expérimenté l'amour de Dieu. Il choisit de s'en remettre à Dieu plutôt qu'à l'homme. Les compassions de Dieu sont immenses. David est amoureux de Dieu. David, Seigneur, il dit, fais ta justice. C'est toi qui diriges ma vie. David savait que l'Éternel sera miséricordieux plus que ses ennemis. Moi, ça me renverse. Ça me renverse totalement quand je commence à méditer ces textes-là. Moi, je dis, Seigneur, touche-les avant que je les touche. Puis David dit, Seigneur, fais ta job. Ton cœur est meilleur que les méchants. Quel revirement de la bonté de Dieu. Laissez-moi vous dire également, c'est pourquoi que David a choisi cette option. Que dire encore de Paul, ce persécuteur, cet homme qui tuait les chrétiens, puis sans pitié, en prison, lapidé, puis il tuait un homme méchant, mais une fois converti, qui est devenu une nouvelle créature, a appris à marcher sur les traces de Jésus. 1 Thessaloniciens 2, verset 7. « Mais nous avons été pleins... » Regarde qu'est-ce qu'il dit. « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même que nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » L'affection de l'apôtre Paul dans sa conversion, donc pour les Thessaloniciens, était de même nature que celle d'une mère qui protège ses enfants, qui veut sauver ses enfants, les protéger. Et pour Paul, il s'est sacrifié pour ses nouveaux convertis également. Il prenait leur défense. Paul, nous savons, était un homme consacré, un homme bouillant, un homme qui l'emmenait au cœur de Dieu et un homme qui dérangeait, un homme qui reprenait, exhortait à avoir le cœur de Dieu. C'est la Bible, ça. C'est votre Bible, c'est ma Bible. Dieu me dirige, te dirige, vous dirige à aller chercher son cœur. Paul a su démontrer, comme ministre de culte, que la bonté de Dieu doit nous animer pour poursuivre notre route pour développer l'amour. J'aimerais dire, quand nous posons comme principe que Dieu est bon, ça veut dire que je peux lui faire totalement confiance en ce qui concerne ma propre vie. Nous pouvons nous abandonner complètement à sa volonté et nous laisser conduire par le Saint-Esprit, plus nous allons plonger dans la nature du cœur du Père, plus vous allez trouver la bonté de Dieu et l'appliquer dans votre vie. Deuxièmement, la bonté de Dieu se manifeste par la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est un évangile de bonne nouvelle. Ce mot-là veut dire « bonne nouvelle ». Chaque fois que l'Évangile est proclamé, c'est une bonne nouvelle. Acte 8, verset 12. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des cieux et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » L'Évangile de la bonne nouvelle est non seulement bonne parce qu'on reçoit le pardon de nos péchés, la rédemption, mais à cause aussi de notre relation restaurée avec Dieu, le Père, qui est plein de bonté. C'est ça qu'on a dit au début. Jusqu'à l'éternité, il est plein de bonté. Jésus a fait connaître le cœur de son Père. Par sa vie, la façon qu'il marchait, et Jésus portait le trait et le caractère du Père. Vous savez, les disciples, un jour, ont demandé à Jésus, il dit, « Fais-nous voir le Père. » Jean 14, 9. Jésus leur dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, à qui a vu le Père? Comment dis-tu, montre-moi le Père? » Ils étaient avec Dieu. Ils étaient avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas reconnu l'essence de Jésus. C'est les propres disciples de Jésus. Montre-nous le Père. Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus portait les traits de son Père, les empreintes de son Père. Jésus a démontré les signes, les miracles et les prodiges qu'il faisait avec le peuple. Il a démontré comme ambassadeur, comme royaume de Dieu, qu'il nous parlait du royaume du Père. Après son ascension, les disciples ils ont eu quelques jours, ils ont été dans la grande frayeur, laissez-moi vous dire, jusqu'à temps qu'ils ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit, alors ils ont compris la mission de Jésus par une compréhension renouvelée de la bonté divine exprimée en Christ. Lisons, Acte 10, 38. C'est les apôtres qui citent. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. » Qu'est-ce qui est écrit après? Qu'est-ce qui est écrit? Dites-le avec moi. Qu'est-ce qui est écrit? Faisait quoi? Faisait quoi? J'ai rien entendu. Il faisait quoi? Du bien. Il faisait quoi? Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu est avec lui. Jésus a fait sur cette terre ce que Dieu a fait déjà au commencement de la création, a fait qu'est-ce qui fait qu'un Dieu est bon. Jésus était la démonstration de la bonté divine et il est venu pour détruire les œuvres du diable. Chacun de nous, nous sommes appelés à suivre les pas de Jésus. C'est vrai? La bonté de Dieu, elle se manifeste par le fruit également de l'Esprit. Vous retrouverez dans Galates. Pour produire en nous la même bonté que Jésus. Prêcher la bonne nouvelle exige pour nous d'être convaincus que la bonté de Dieu, elle nous conditionne à aller suivre ses traces. L'évangile de la bonne nouvelle, elle est tracée pour nous par le chemin du salut. Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté pour vous, pour moi, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils à la croix pour nous. Dieu nous a montré son amour inconditionnel à chacun de nous lorsqu'il nous a purifiés de tout péché. Sa bonté a fait que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Il nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Dieu, dans sa bonté, a mis en nous son esprit, signe qu'on lui appartient et qui nous fait rentrer dans son règne. Dans sa bonté, il nous a scellés du Saint-Esprit. Dieu, dans sa bonté, il nous a acceptés comme enfants de Dieu. Il nous a donné une nouvelle identité. Je suis enfant de Dieu et je le suis. Nous ne sommes plus des orphelins. Dieu, dans sa bonté, nous confère tous les privilèges d'enfants de Dieu. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous sommes héritiers, co-héritiers de la grâce de Dieu. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Dieu, dans sa bonté, il ôte nos vêtements de deuil pour nous revêtir d'un vêtement de justice. Dieu, dans sa bonté, guérit nos corps malades, nos esprits, nos émotions. Dieu, dans sa bonté, a guéri les mille et mille et mille personnes. Hallelujah! Dieu, dans sa bonté, il a nourri 5000 personnes avec 2 pains et 5 poissons. 5 poissons, 2 pains. Il a guéri Bartimée, il a guéri les malades, cherché les démons. Il a guéri, il a délivré, il a mis de la joie dans le cœur de l'homme. Il a été sur les pauvres, il a été sur les lépreux. Il les a guéris. Dieu a montré sa bonté. Qui suis-je pour juger? Dieu, dans sa bonté, n'en vient pas des fois. Dieu, dans sa bonté, il dit, allez vers les autres. Dieu, dans sa bonté, c'est une révélation qui nous presse d'aller vers les autres. Dieu, dans sa bonté, il désire atteindre les gens sans Jésus, sans lui. J'aimerais vous donner un témoignage que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Un couple apostolique qui un jour était en Thaïlande et il était avec un groupe de pasteurs. Et il se trouve à Laos, et Laos est dans la péninsule indo-chinoise. Ils étaient accompagnés par un guide pour traverser les frontières. Et il y avait des grandes réunions de réveil. Et l'homme qui conduisait ces gens-là, les chrétiens, c'est un ancien officier secret qui, plusieurs années auparavant, son rôle, c'était d'arrêter et de persécuter les chrétiens. Jusqu'au jour qu'il est tombé malade. Et alors qu'il venait d'arrêter les chrétiens, la veille, des prisonniers chrétiens... Ils ont vu que le gars n'allait pas bien. Il dit, « Est-ce qu'on peut prier avec toi? » Il dit, « Oui, il dit, vous pouvez prier avec moi. » Et cet homme-là a été complètement guéri à l'instant même. Et cet homme, dans le témoignage, il dit, il se posa la question, « Qui sont ces gens qui ont prié pour moi? » Je viens de les arrêter, puis ils ont de la bonté, ils prient pour moi. » Sa question... Qui m'a guéri? Qui est le Dieu qui m'a guéri? Alors, pendant que je persécute, moi, j'ai été guéri. Et cette rencontre a abouti à sa conversion. Puis face à sa conversion, à son tour, il a été jeté en prison. Et une fois qu'il était en prison, il a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à prier avec d'autres prisonniers. Il y a eu des gens qui sont convertis, il y a eu des miracles. Et le geôlier, le chef de la prison, se rendit auprès de l'autorité. Il va dire, cet homme est trop dangereux pour le garder en prison. Il est son zèle, il est contagieux. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont relâché. On va aller encore plus loin. Et à partir du moment qu'il a été relâché, il a implanté 50 églises. Tous fondés sur le principe que nous servons un Dieu bon et guérissant. Vous vous demandez, des fois les gens disent, tout un évangéliste. Je ne suis pas un évangéliste, mon cœur premier n'est pas un évangéliste, mais j'aime parler parce que c'est le cœur de Dieu ça. Et vous savez, on a besoin de faire connaître notre Jésus. Les chrétiens ont démontré de la compassion pour cet homme. Ces gens ont pu dire, « Crève, tu nous as arrêtés! » Non, ces gens ont vu cet homme malade et ont prié avec lui. Les fruits ont été présents. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un homme malade et ont eu compassion. Ayons donc cette compassion-là. Peut-être que ça changera certaines places. Allô? Dieu désire notre cœur. L'Évangile a fait un pas de foi énorme dans ces régions. Et Jésus nous enseigne également que ses compassions se renouvellent à tous les matins, à tous les jours. Lamentation, c'est le seul beau texte que je peux trouver dans Lamentation, là. 3:22. Les bontés de l'Éternel sont pas épuisées, ses compassions sont pas à leur terme. Que dire encore qu'à tous les matins que Dieu donne une manne fraîche à son peuple, notre Dieu se sert de nous pour emporter la bonté. Hébreux 2:4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et de divers miracles, par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. La bonté de Dieu, c'est déverser l'amour sur les autres. La bonté a compassion des besoins des autres. Elle ne regarde pas juste à ses besoins. L'Évangile, c'est une démonstration, je le dis, une démonstration de bonté. Nous sommes là pour aider notre société à connaître l'amour de Jésus. Et à notre tour, soyons reconnaissants, démontrons à notre tour de la bonté. Soyons bons entre nous également. La mission première, c'est d'être un peuple engagé pour démontrer qui nous servons. Comme Moïse, on doit prier ce matin, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-nous voir ta bonté. » Ésaïe 38, verset 16, je termine dans quelques instants. « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore, tu me rétablis, tu me rends à la vie. » Réalisons en terminant, comme peuple de Dieu, comme enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire en réalité? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment démontrer la bonté aux autres? Lisons ensemble, c'est mon dernier verset, Ésaïe 58, versets 6 et 8. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détachez les chaînes de la méchanceté. Dénouez les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et qu'on en rende toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » La bonté de Dieu. Combien connaissent le témoignage de Michel Godin à Québec, le Café chrétien? Ce gars-là, c'est pas un orateur extraordinaire, mais il a un cœur de compassion pour les gens perdus. Il est parti avec rien, donner de la nourriture à tous les jours à des hommes dans le vieux Québec, dans le milieu de la prostitution, des drogués, où il n'y a rien de bon. Tiens, quand on dit rien de bon, là, junkie, prostitution, puis lui a ouvert, le Seigneur lui a montré d'ouvrir un café, là, rouvre un café, donne du café. Puis ça a commencé à prendre l'ampleur, puis là, ça grandissait, puis ils ont demandé des dons au gouvernement pour les aider. Ils ont eu des dons de 1 million et demi. Les États-Unis, ils ont donné des 2 à 3 millions pour bâtir leur affaire, parce que cet homme avait la bonté de Dieu pour aider les autres. Regardez le frère Hood à Montréal. Qu'est-ce qu'ils font? L'œuvre sociale. Ils n'ont pas le temps de s'entretuer. Ils ont tellement de travail, ils se couchent le soir, ils sont tous fatigués. Où est notre cœur vraiment? La bonté de Dieu, c'est un changement de cœur et d'attitude. Dieu aime et Dieu veut qu'on détache nos chaînes de la méchanceté. Notre cœur, ce matin, doit être blotti sur son cœur. Pour faire le bien, mettons-nous en action, démontrons notre bonté. Et que dire, je termine avec ce verset, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec langue, mais en action en vérité. Allô? Est-ce qu'on a à apprendre un matin quelque chose? Je ne sais pas si ça vous parle, là. Moi, en tout cas, ça m'a parlé beaucoup. Puis, des choses où je travaille encore. Je ne suis pas rendu à 100%, mais je travaille à plusieurs niveaux. Je termine. Les bonnes actions se démontrent par des cœurs transformés pour appliquer la bonté de Dieu dans la vie des gens. Que nos œuvres parlent par elles-mêmes et que sa bonté se développe en nous par son fruit. Combien sont d'accord? Levons-nous ce matin.